Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandra Guerre, bonjour.
Bonjour.
Donc nous sommes ensemble pour notre dernière émission avant l'été, diffusée sur Radio Lapourdi et sur Radio Présence, avec bien sûr un petit retour sur l'événement de l'année qui était la béatification du Père Sestac. C'était le 31 mai dernier. Alors, Monseigneur Ayé, vous avez aidé à relancer cette cause du Père Sestac qui a mis finalement du temps à être béatifié, mais ça y est, c'est fait. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cet événement, vous qui avez été impliqué directement dans ce grand événement?
Alors, j'ai conscience d'abord que j'arrive après les efforts de beaucoup, à commencer par mon prédécesseur, Monseigneur Pierre Moller, qui a de fait relancé l'affaire lorsqu'on a découvert de manière fortuite, mais qui n'est pas un hasard et plutôt une providence, le dossier du miracle tant attendu par les sœurs depuis la proclamation de l'héroïsté des vertus du Père Sestac par Paul VI en 1976. Donc c'est en 2005 en effet, ou 2006, que le chanoine Brett, archiviste du diocèse d'Eridax, a retrouvé, en faisant des rangements en vue d'un déménagement de l'évêché, préconisé par M. Breton à l'époque, a redécouvert par hasard ce paquet qui était resté en souffrance dans la poussière des archives de Dax, qui mentionnait cette guérison inexpliquée obtenue par l'intercession du Père Sestac. Et c'est ça qui a tout déclenché. Alors ensuite, moi, je suis arrivé et avec surtout sœur Louisette Sabat, vice-postulatrice de la cause, qui a fait un travail remarquable et extrêmement méticuleux, avec une patience à revendre, a suivi à ce dossier du miracle avec la Congrégation pour la cause des saints, pour aboutir finalement à la reconnaissance par le pape François de ce miracle.
Qu'est-ce que vous avez ressenti finalement le jour J? Vous étiez ému, j'imagine?
Oui, moi j'étais très ému, et bon, d'abord parce que à cause de la beauté de la célébration, j'allais dire quasiment de la perfection des choses, autant au point du point de vue liturgique que du point de vue logistique, que de tout ce qui a entouré la préparation et la célébration de cette béatification. Et puis j'ai ressenti à travers cette fête qui a rassemblé quand même beaucoup de prêtres, de consacrés, à commencer par les servantes de Marie, pour lesquelles c'était un beau signe de reconnaissance, pour le témoignage de cette de congrégation depuis plus de 100 ans. Et puis à cause de la multitude des fidèles qui sont venus de partout quand même pour participer à cette célébration de la béatification, j'ai tout d'un coup mesuré que ce qui était important, c'est que le Père Sestac manifestait la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des hommes et dans notre histoire, et en particulier dans l'histoire de notre église locale, puisque c'est un saint local qui est béatifié à Bayonne et donc qui a un message extrêmement actuel et pertinent pour nous aujourd'hui. Et je me suis dit, bien, Dieu est à l'œuvre. Et dans un monde où l'on vit comme si Dieu n'existait pas, où l'on peine même à penser, à croire au surnaturel, y compris parfois même dans l'Église, où l'on pourrait être parfois un peu découragé dans notre foi, eh bien, l'intercession, la reconnaissance d'un miracle obtenu par l'intercession de ce prêtre, qui a vécu il y a plus de 150 ans, chez nous, eh bien, nous montre que Dieu est à l'œuvre. Dieu est puissant, la puissance de l'amour de Dieu qui dépasse tous les schémas rationnels, scientifiques, dans lesquels nous sommes parfois un peu enfermés, eh bien, est à l'œuvre dans notre vie et dans notre histoire.
Cette béatification d'un saint local, il n'y en avait pas eu depuis 1947, puisque c'était la date de la canonisation de Michel Garicoït.
Voilà, et qui avait lieu à Rome, évidemment, ainsi que sa béatification, car vous savez que c'est le pape Benoît XVI qui a eu la géniale idée de revenir à une pratique ancienne, c'est-à-dire de permettre la célébration des béatifications dans les églises locales. Puisque la béatification, comme vous le savez, ouvre à un culte d'abord local, avant que la canonisation l'ouvre à un culte universel.
La prochaine étape pour la canonisation du Père Sestac, c'est le miracle.
Il faudrait encore un miracle, aussi béton que celui-ci, obtenu par son intercession, pour que le Père Sestac soit en effet canonisé.
La béatification va porter des fruits dans le diocèse, elle en porte déjà peut-être ?
J'en suis sûr, hein, je ne pense pas que ce soit un événement indifférent à la vie de notre diocèse, d'abord qui je crois était bien préparé, en particulier grâce à l'engagement et l'investissement des servantes de Marie, mais aussi de l'équipe de pilotage, hein, de cette béatification autour de l'abbé Lionel Landard, un vicaire général. Beaucoup d'éléments ont été donnés, beaucoup d'événements marquants qui vont continuer pendant toute cette année Sestac, nous permettent de prendre en effet la mesure spirituelle d'un tel événement. Encore une fois, c'est un modèle à imiter pour nous aujourd'hui, un prêtre avec une charité pastorale tout à fait exemplaire, missionnaire aussi des périphéries, hein, de son temps, qui nous rappelle aussi à notre engagement missionnaire auprès des périphéries de notre temps, l'engagement aussi auprès des plus pauvres, qui sont toujours évangélisés. Hein. Le Seigneur dit lui-même « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour annoncer l'Évangile aux pauvres ». Et un type de vie consacrée, à la fois contemplative et active, dont il a été le promoteur, la promotion aussi de la femme, hein, en s'occupant de l'éducation des filles, en ouvrant des écoles, en s'occupant de ces orphelines, ces prostituées, tout ça est très important pour notre temps, et j'espère qu'on prendra la mesure de ce que cet événement de grâce peut nous apporter aujourd'hui.
Est-ce qu'un saint doit toujours être incompris par ses contemporains ? Parce que ça a été le cas quand même du père Sestac. Même son évêque le soutenait, mais bon, c'est pas gagné, quoi.
Un saint configuré au Christ est toujours plus ou moins compris. En effet, il est compris par certains, et il est mal compris par d'autres, et de manière souvent assez surprenante, c'est dans l'Église qu'il peut être aussi mal compris. Mais Jésus a été rejeté par les hommes du temple, hein, et de la loi sainte de Dieu, hein, les pharisiens, les sadducéens, etc. Donc je pense que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, comme Jésus l'avait lui-même promis à ses apôtres. Si le monde m'a pris en haine, il vous prendra aussi en haine. Et lui aussi était en butte, en effet, comme Jésus, à l'hostilité des hommes. Il a eu des campagnes de presse contre lui. Il a été mal compris des bons bourgeois catholiques de Bayonne. L'évêque lui-même a été très réticent. Pas forcément pour les mêmes raisons, parce que il a toujours saisi en lui un véritable saint. Mais l'évêque était très jaloux de son diocèse et ne voulait pas voir une œuvre aussi belle s'exporter en dehors de son église particulière.
Alors vous le disiez, Monseigneur Hayet, cette béatification touche tous les diocésains. Alors malheureusement, certains n'ont pas pu venir. C'est vrai que c'était dans la cathédrale, on ne peut pas accueillir non plus tout le diocèse. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas pu venir ou qui l'ont suivi à la télé ? Est-ce que les grâces vont les toucher quand même ?
Oui, bien sûr. Alors je crois que c'est un peu dommage, en effet, qu'il y ait eu des effets d'annonce, semble-t-il, qui ont pu dissuader les fidèles de se rendre à la cathédrale en leur disant « toutes les places sont réservées à la cathédrale, il n'y aura plus que des places à Saint-André » ou dans le cloître, où d'ailleurs des écrans avaient été installés. Donc je remercie aussi tous ceux qui ont été à l'origine de ces prouesses techniques quand même, hein, pour permettre au plus grand nombre, non loin du lieu physique où avait lieu la béatification, d'être présent. Et de fait, il y a eu beaucoup de monde, autant à Saint-André que dans le cloître. Mais je pense que on a rempli la cathédrale aussi avec pas mal de fidèles qui étaient dans le cloître, parce que les gens ont cru qu'à la cathédrale, il n'y aurait pas de place pour les autres qui n'étaient pas invités de manière particulière, comme les sœurs, comme deux représentants par paroisse, un par mouvement, comme le clergé, etc., etc. La famille aussi du père Sestac. Bon. Ceci dit, je leur dis qu'ils ont aussi profité de l'événement grâce à la radio, parce que c'était bien couvert quand même, et par Radio Lapourdi et par Radio Présence, et puis aussi par KTO. Et la vidéo intégrale est encore disponible sur le site du diocèse, donc je les invite à aller revoir cette vidéo, même pour ceux qui ont participé physiquement, qui verront peut-être encore mieux certains détails qu'ils n'auront pas perçus au cours de la célébration.
L'année Sestac n'est pas finie, elle s'achèvera le 2 février 2016, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Avec l'année de la vie consacrée. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements sur lesquels vous voulez attirer l'attention de ceux qui nous écoutent ?
Alors, je crois qu'il y a un colloque en octobre qui est organisé à l'initiative de la mairie d'Anglet, hein, qui a fait beaucoup aussi pour marquer l'événement en dédiant une portion d'avenue de l'avenue Montbrun à l'abbé Sestac. C'était très émouvant d'ailleurs, hein, cette visite que nous avons faite chez les sœurs avec le cardinal Amato, le matin de la béatification. Il y aura d'autres, évidemment beaucoup d'accueils organisés par les servantes de Marie, hein, au refuge. Donc je pense qu'il va y avoir des groupes qui vont encore affluer, même s'il y en a déjà beaucoup qui se sont rendus avant la béatification sur les lieux mêmes de la mort du père Sestac et de la vie de son œuvre. Voilà, donc je pense
un mot peut-être quand même sur la journée qui aura lieu dans les Landes avec en lien avec le diocèse des Landes et notre diocèse. C'est une journée à Buglose.
Oui, c'était important qu'on marque à Buglose l'événement de la béatification, puisque c'est quand même là qu'il a rencontré ou que la Vierge Marie lui a donné cette fameuse maxime qui était celle de toute sa vie, ne me demande que mon esprit, et c'est là qu'a commencé toute son œuvre, hein, on peut dire, née, comme il le disait lui-même, de l'intention même de la Vierge Marie. Et puis c'est là aussi que le fils de M. Sebi, qui est précisément le miraculé du père Sestac, était prêtre et recteur de Buglose. Hein, donc tout ça nous invite aussi, et puis c'est aussi là que le dossier a été retrouvé, puisque le miraculé était un ressortissant du diocèse des Rédax. Donc c'est important que nous puissions marquer l'événement à Buglose, et je suis heureux d'y avoir été invité aussi par Mgr Gachignard, évêque des Rédax, à présider ce pèlerinage interdiocésain.
Alors c'est la date
13 septembre prochain, donc à Buglose.
Merci Monseigneur. Un mot sur le hors-série qui vient de sortir, qui reprend tous les articles qui ont pu être écrits sur le père Sestac et bien sûr l'homélie intégrale du cardinal Amato, des photos donc pour revivre ce grand jour.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Rayet, nous vous retrouvons. Alors, le 28 juin, un événement important, une ordination sacerdotale dans notre diocèse.
Voilà, donc il s'agira d'Amador Vicente, que j'ai ordonné diacre le 4 janvier dernier, ou le 3 janvier exactement, je pense, la veille de l'Épiphanie, avec l'ordination sacerdotale de Paul-Marie Boutin, qui marquait, pour le diocèse, l'entrée dans la Necestac, précisément. Hein. Je voulais que on marque l'événement à la cathédrale où il a été vicaire, et avec une ordination, parce que c'est quand même pour nous aussi un modèle de prêtre, avant d'être le fondateur des Servantes de Marie. Amador Vicente, qui est un jeune d'Andaille, donc qui est un jeune local, si vous voulez, et qui a fait sa formation à Ars, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, où il a été en stage à Notre-Dame en Béarn, l'Escar. Voilà. Donc c'est pourquoi je l'ordonnerai à la cathédrale de l'Escar, le 28 juin, à 16h, la veille de la grande solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est la date traditionnelle en France pour les ordinations sacerdotales.
Alors, vous le disiez, il a été ordonné diacre en janvier. C'est assez rapide, finalement. D'habitude, est-ce qu'il n'y a pas un an de diaconat?
Ah non, alors, si, c'est vrai qu'ordinairement, il y a un an, mais lui, il a eu un peu plus de temps de diaconat. Ou avant d'être ordonné diacre, il a eu un temps un peu plus important, plus exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que le code droit canonique nous demande 6 mois, un délai de 6 mois. À partir de 6 mois, on peut ordonner un diacre. Et c'est assez fréquent dans beaucoup de pays, d'ailleurs. À Rome, par exemple, on n'attend pas un an avant d'ordonner les prêtres. Là, il manquera 2 jours pour que ça fasse 6 mois. Donc, il aura une dispense d'interstice de 2 ou 3 jours.
Alors, il y a 4 ans, vous lanciez la Maison Samuel, en lien justement avec ce souci que vous avez de la pastorale des vocations. Depuis le mois de septembre, il y a un nouveau directeur qui anime cette Maison Samuel avec le père Jean Guessabal. Quel bilan vous faites de cette expérience, finalement?
Alors, pour moi, c'est une expérience importante. Je dirais que ça n'est pas, évidemment, un petit séminaire. Ça n'est même pas un foyer vocationnel. Donc, vous voyez qu'on n'est pas... centré sur la vocation sacerdotale, c'est un tiers-lieu éducatif qui peut permettre à des jeunes adolescents qui sont de la, on va dire de la sixième à la terminale, si vous voulez, hein, même si aujourd'hui c'est plutôt des lycéens, qui peut permettre à ces jeunes de découvrir leur vocation chrétienne, avant tout, qui est le fondement de toute vocation, et de discerner ce à quoi le Seigneur les appelle, hein, pour être, j'allais dire, une bonne personne, pour être un homme heureux, voilà. Quel type de personne voulez-vous être ? C'était la grande question que le pape Benoît XVI avait posée lors de son voyage en Angleterre à des étudiants. Et au fond, c'est dans cette perspective-là qu'il faut se situer. Nous ne sommes pas là dans le cadre d'un recrutement, comme pourrait l'être un foyer vocationnel ou un petit séminaire, qui réduirait la passoire des vocations à être un recrutement pour le séminaire ou pour les congrégations religieuses. Mais nous sommes dans une passoire du discernement. Et je pense en effet que dans cette société très sécularisée, où la famille souvent est assez blessée, en tout cas démunie par rapport à l'éducation des enfants, où l'école ne se substitue peut-être plus suffisamment, selon un principe de subsidiarité, à ce devoir éducatif des parents, où il est difficile à un jeune de grandir dans la foi. Je le vois évidemment quand je confirme des adolescents, hein. Souvent ils sont peu nombreux et un peu en difficulté de pouvoir se présenter comme chrétien, y compris dans leur classe d'école, y compris dans l'enseignement catholique, il faut bien le dire, qui est touché aussi par le milieu ambiant, hein, la sécularisation ambiante. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des lieux un peu de liberté, de la liberté des enfants de Dieu, où ces jeunes qui ont quand même un désir de vivre leur foi chrétienne, transmise ou redécouverte dans l'enfance ou l'adolescence, par choix personnel, puissent grandir dans la foi. Voilà. Et découvrir que la foi n'est pas seulement un à côté de la vie qui correspondrait à, qui coïnciderait avec une heure de pastorale dans un établissement catholique, ou la présence d'un prêtre pour une célébration, que sais-je encore, mais qu'elle fait partie de la vie, qu'elle est une vie. Et il faut qu'il y ait une espèce de bassin de vie, on pourrait dire, dans lequel ils puissent grandir dans la foi, et donc dans le discernement de ce que Dieu veut pour eux. Quel est le type de personne que tu veux être pour demain en tant que chrétien ? À quoi le Seigneur t'appelle pour accomplir ta vie ? Ça peut être le mariage, comme pour la plupart d'entre les jeunes d'aujourd'hui. Ça peut être la vie consacrée, ça peut être le sacerdoce. Et je crois que c'est important aussi dans le cadre d'une passoire des vocations.
Quand on est parent, on est peut-être inquiet de mettre son enfant dans un pensionnat. Est-ce que la famille n'est quand même pas le meilleur lieu pour un enfant de se développer ? Qu'est-ce qui pourrait motiver des parents pour les mettre dans cette
pensionnat ? L'âge de l'adolescence, comme vous le savez, est un âge où on commence à un peu ruer dans les brancards, et on a peut-être besoin, quand on a une famille équilibrée, qui nous transmet bien non seulement la foi, mais aussi les valeurs humaines, familiales, très importantes pour leur croissance, ça peut être important qu'ils voient aussi, avec d'autres qui ne sont pas de leur famille, que ces valeurs auxquelles ils se confrontent un peu, au sein de leur famille, à l'âge de l'adolescence, eh bien, sont aussi partagées par d'autres. Et donc ça peut les aider à mieux accueillir ce qu'ils reçoivent en famille, sans compter que c'est un internat qui ne les arrache pas vraiment à la famille, dans la mesure où tous les vendredis soirs ils sont à la maison et ils ne reviennent que le lundi matin, hein, donc c'est quand même assez restreint. Souvent c'est un climat que la famille apprécie, souvent les familles découvrent que les enfants revenant à la maison changent aussi un peu dans leur relation, y compris à l'âge de l'adolescence, avec les parents, avec les frères et sœurs, et plus pacifié, plus motivé. Donc je pense que, et pour les études, et pour la foi, donc je pense que c'est tout bénéfice, et c'est une belle collaboration en tout cas avec la famille.
Alors la Maison Samuel vient de renouveler son site internet, et on peut inviter ceux qui nous écoutent à s'y rendre, ils trouveront tous les renseignements, maisonsamuel.fr. Alors Monseigneur Hayé, vous poursuivez votre marathon des visites pastorales, vous étiez en Béarn, à Notre-Dame de l'Escar, justement, du 20 au 24 mai, et vous revenez là de Saint-Jean-Pied-de-Port, en Pays Basque, du 10 au 14 juin. Un mot sur ces deux paroisses ?
Alors, deux paroisses effectivement très différentes, et j'allais dire très typées, hein, que ce soit l'Escar, qui est à la fois une ville et un village, à la porte de Pau, et qui est une ville romaine, donc qui a une grande histoire, où est né un diocèse même, hein, avec une magnifique cathédrale, donc une diocèse qui date du 5e siècle, donc excusez du peu, Et Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un fleuron de la Basse-Navarre, la capitale de la Basse-Navarre, de notre pays basque, qui en plus est un lieu, j'allais dire, non seulement magique, comme disent les gens, sur le plan géographique et historique, mais aussi parce que on a l'impression d'être dans une ville cosmopolite, tant se croisent ici, à cause des chemins de Saint-Jacques, tous les pays du monde. Hein, donc c'est... Et en même temps, une culture basque extrêmement racinée dans le terroir. Alors si je devais dire deux petits mots sur ces deux visites pastorales, j'ai d'abord été bien impressionné à Lescar par une communauté en croissance, avec un vrai sentiment d'appartenir à une communauté, un curé qui a eu le souci d'enraciner la vie de sa paroisse dans la prière, où d'ailleurs il donne lui-même l'exemple, et on voit bien qu'il y a une prière qui façonne une communauté chrétienne, et en même temps qui a hâte de s'engager sur les chemins de la mission vers les périphéries. Donc ça, c'était la visite pastorale du mois de mai. Et puis à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai été impressionné par, j'allais dire, la foi enracinée dans une terre. Comme un arbre pluriséculaire, dimanche, le jour de la clôture de la visite pastorale, c'était le texte d'Ézéchiel qui comparait le peuple d'Israël à un cèdre du Liban, et Dieu qui coupait une tige la plus jeune tout en haut de la cime pour pouvoir la replanter. Et je pensais aussi à ce psaume 91 que nous méditions pendant cette messe, qui dit l'arbre vieillissant fructifie encore. Voilà. Je trouvais que c'était une belle image de la communauté paroissiale de Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin c'est de Saint-François-Xavier en Galatie, Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est cet arbre planté dans une terre chrétienne depuis des siècles, qui exprime d'ailleurs son âme chrétienne à travers la beauté du chant basque. J'étais fier le vendredi soir, jour du Sacré-Cœur, mais c'était la messe aussi en hommage à l'abbé Émile Lard, donc l'église était pleine, les chants fusaient et s'élevaient dans les voûtes, exprimant cette foi, j'allais dire, pluriséculaire, et je me disais, les nombreux pèlerins qui sont là, qui viennent de partout, qui entendent ce chant et qui participent à cette messe, ne peuvent pas ne pas être marqués par ce témoignage, vous voyez. Et en même temps, je leur disais, cet arbre pluriséculaire, eh bien, est-ce que nous laisserons Dieu couper des tiges nouvelles pour transmettre la foi aux générations futures, car ça reste évidemment notre inquiétude à tous, hein, et comment là aussi être inventif pour que cette foi puisse se transmettre.
À Lescar, vous avez, Monseigneur, visité le village Emmaüs, un des plus gros de France, je crois.
Le plus gros.
Le plus gros de France. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce village qui est quasiment une mini-société
D'abord, son
elle-même.
Son emblématique responsable, hein,
Germain Sarri.
Germain, voilà, qui est un véritable manager, avec des idées économiques, politiques extrêmement particulières, hein. Qui est très original même dans l'ensemble des Emmaüs de France, un petit peu à part, faut le reconnaître.
Est-ce que la spiritualité de l'abbé Pierre est toujours présente dans ce village ?
Alors oui et non, oui, elle est présente, mais je dirais qu'il y a un formidable effort d'insertion des personnes souvent laissées sur le bord de la route, hein, à l'Emmaüs de Lescar, avec une floraison d'initiatives, j'allais dire, économiques, professionnelles, pour les aider à être les acteurs vraiment de leur vie, hein, et puis d'une vie sociale retrouvée, hein, avec un certain communautarisme quand même qui est assez présent dans cet Emmaüs de l'Escarpeau. Oui, ça, c'est vrai que de ce côté-là, les compagnons d'Emmaüs sont un formidable moyen de réinsertion sociale par le travail et par la vie collective, hein, avec un mode de vie un peu alternatif par rapport au modèle économique capitaliste dans lequel certains ne peuvent plus s'y retrouver et restent sur le bord du chemin. C'est sûr que l'idéal religieux du père de l'abbé Pierre est peut-être moins présent, mais ceci dit, il y a quand même une ouverture sur cette réalité-là.
Oh, Monseigneur Ayé, le 21 juin dernier, vous avez effectué l'envoi en mission des chrétiens, des laïcs, des fidèles laïcs qui ont suivi le cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes, le CIFAC. Combien étaient-ils et quel a été votre message ?
Alors, ils étaient une dizaine, hein, donc c'est un groupe un peu moins important que par le passé, qui montre d'ailleurs qu'il y a un petit essoufflement du gisement potentiel des candidats du CIFAC, parce que c'est-à-dire c'est quand même une instance de formation pastorale pour les laïcs qui existe depuis un peu plus de 20 ans, puisqu'en 2014, nous célébrions le 20e anniversaire de cette instance. Géniale, hein, qui a accompagné pendant ces 20 dernières années la mise en place des nouvelles paroisses en formant des laïcs à même de collaborer de manière responsable et efficace avec les prêtres dans la triple mission de l'annonce, de la célébration et du service qui permettent à nos communautés de fonctionner comme des communautés chrétiennes, ecclésiales. Voilà. Donc le message, c'est de les inviter à prendre leur place, en effet, dans les paroisses, dans les services pour lesquels ils ont été envoyés, tant par les curés d'ailleurs que par des responsables de mouvements ou de services, et d'accentuer toujours plus la dimension missionnaire de leur implication. Hein, je crois qu'il faut que nous réfléchissions aujourd'hui que, comme nous le dit souvent le pape François, l'Église n'existe pas pour fonctionner. Il ne faut pas que nous soyons centrés sur le fonctionnement, donc l'organisation fonctionnelle de nos communautés, même si ça a été très nécessaire après la mise en place de ces nouvelles paroisses demandées par le synode diocésain en 1992, mais il faut aujourd'hui résolument s'engager dans une posture d'évangélisation des périphéries, et donc sortir peut-être un peu plus du fonctionnement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai demandé, comme je l'ai annoncé déjà au conseil presbytéral, et aux prêtres, par le courrier de fin d'année, j'ai annoncé que le CIFAC allait faire une pause cette année pour reprendre à frais nouveau cette formation des laïcs sans faire l'économie des fondamentaux qui sont une des richesses de ce cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes, mais en axant précisément davantage sur la dimension missionnaire des laïcs envers les périphéries.
Donc le CIFAC va continuer
continuera autrement à partir de cette année de jachère, je dirais, après cette année de jachère.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tout à l'heure, vous avez évoqué les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en nous parlant de la visite pastorale à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, vous allez vous organiser, vous êtes l'évêque un peu responsable des chemins de Saint-Jacques désormais, et vous organisez une grande rencontre début juillet avec les évêques où le chemin passe dans leur diocèse, c'est ça ?
Oui, j'ai en effet pris la suite de Monseigneur Henri Brincard, de vénérée mémoire, qui, comme coordinateur des évêques de France concernés par le chemin de Saint-Jacques, en lien avec les évêques espagnols, et tout ceci à l'initiative, il y a déjà quelques années, en 2009 je crois, de l'archevêque de Santiago, qui nous avait tous réunis pour nous inviter à mettre en place une pastorale d'évangélisation commune sur les chemins de Saint-Jacques, pour redonner peut-être au chemin de Saint-Jacques, qui est convoité aussi par beaucoup d'associations laïques et parfois même laïcardes, sa dimension spirituelle, hein, pas seulement culturelle. Le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin de foi, et c'est un chemin de communication de la foi à travers l'histoire. Donc pour nous, c'est un lieu privilégié d'évangélisation de milliers, de centaines de milliers maintenant, de pèlerins du monde entier, qui n'empruntent pas toujours ces chemins avec des motivations chrétiennes, tant s'en faut. 30% seulement le font pour des raisons de foi, mais s'ils le font comme des randonneurs, au départ, ils deviennent assez facilement des pèlerins, parce que ce chemin est un véritable message. Alors le but de cette rencontre, c'est que tous les deux ans, nous proposons une rencontre entre évêques français et espagnols, en France ou en Espagne. Bon, la dernière fois, il y a deux ans, c'était à Raqqa. Cette année, c'est à Bayonne. Donc c'est moi qui accueillerai les évêques français et espagnols pour réfléchir à un moyen de internet pour aider les pèlerins à préparer leur pèlerinage, pour les accompagner spirituellement en particulier, mais aussi à travers tous les détails de la vie pratique, et pour organiser le suivi aussi du chemin, qui est souvent une expérience forte, mais qui mérite aussi un suivi quand ils vont retourner dans leur pays, par un autre chemin, nous l'espérons, comme les rois mages, après l'adoration de la crèche. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un moyen informatique qui est un site, en fait, qui existe déjà, mais que les évêques de France ont décidé de se réapproprier, qui est le site Web Compostela. Voilà. Et puis, nous avons aussi, ça c'est une grande première, l'intention, avec les évêques espagnols, de promulguer une lettre pastorale à l'intention de tous les pèlerins, comme des accueillants, des hospitaliers, de ceux qui, dans les paroisses, dans les lieux de culte, accueillent, dans les hébergements, accueillent ces pèlerins. Et cette lettre pastorale, en français et en espagnol, sera donc promulguée pendant cette rencontre. Avec une petite innovation cette année, c'est que les deux jours que nous passons habituellement entre évêques sera aussi l'occasion pour la deuxième journée d'accueillir des responsables d'hébergement et d'accueil chrétien sur les différents routes de Saint-Jacques, tant du côté français que le Camino Francés du côté espagnol. Voilà, parce qu'il m'a semblé important que les évêques réfléchissent ensemble, c'est bien, mais ceux qui sont les acteurs du terrain, il faudrait mieux qu'on puisse s'échanger avec eux. Et donc ce sera la deuxième journée, qui ne sera pas à Bayonne, mais à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec un petit tronçon d'une heure et demie de marche sur le chemin de Saint-Jacques, hein, pour que nous puissions faire l'expérience ensemble, et un accueil par la paroisse Saint-François-Xavier en Galatie, et la promulgation de cette lettre pastorale.
Alors on part un peu plus au nord de la France, on en parle en ce moment, c'est l'affaire bien sûr Vincent Lambert, puisque la Cour européenne a donné son avis pour arrêter les soins. La loi Claeys-Leonetti est étudiée au Sénat depuis le 16 juin. Alors quel est votre message par rapport à tout ce qui se passe et puis aux polémiques aussi qu'on entend sur cette vidéo diffusée de Vincent Lambert? Quel est votre message à la famille et puis...
Mon message, il est simple, vous en doutez bien. Pour moi, c'est dramatique qu'une Cour européenne des droits de l'homme puisse statuer sur, finalement, la vie ou la mort de Vincent Lambert. Comme l'a dit d'ailleurs le cardinal Barbarin, au nom de quel droit de l'homme peut-on décider d'arrêter l'hydratation et la nutrition d'un malade qui est plus exactement d'un grand handicapé, aussi relationnel comme on dit, c'est-à-dire qui a des communications réduites, mais qui ne sont pas réduites à néant pour autant, et qui n'est pas en fin de vie, et qui n'est pas, qui ne souffre pas apparemment, qui n'est pas malade au sens strictement, parce qu'il n'est pas en état végétatif, il n'est pas branché. Il digère normalement, et donc on n'arrête pas des soins, mais on arrête des fonctions de base de la vie que sont la nutrition et l'hydratation. Donc pour moi c'est quand même un sujet très grave, qui relance évidemment la question de l'euthanasie active, contrairement à ce que l'on dit, la loi Claeys-Leonetti, en prévoyant cette sédation profonde et continue, en fin de vie, comme on dit, provoque la mort de manière directe du malade en phase terminale. En l'occurrence, une fois encore, je le répète, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Alors, cette idée de polémique sur les vidéos, je sais bien qu'il y a une liberté de l'image, un droit à l'image, qui pourrait ne pas être respecté à travers cette vidéo qui a été diffusée. En même temps, vous comprenez bien que lorsque on entoure ce grand handicapé d'un tel mystère, qu'on lui refuse le transfert dans un établissement où on pourrait l'aider à améliorer son état, dans la mesure où il est comme séquestré, que ses parents eux-mêmes, quand ils viennent voir leur fils, doivent déposer leur carte d'identité à l'accueil, qu'il y a des caméras pour voir exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de cette chambre. Vous vous posez quand même des questions et vous vous demandez où est-ce qu'est l'absence de liberté. Je pense que là, il y a un vrai problème, et c'est pourquoi ça ne me choque pas finalement que pour faire connaître au grand public ce qu'on lui cache délibérément sur l'état réel de ce grand handicapé, ben, je pense que c'est cette bonne guerre que de diffuser cette vidéo pour montrer que, en effet, il n'est pas branché, il n'est pas en fin de vie, il est profondément handicapé, mais ça pose quand même un problème majeur, il faut quand même le dire, même si c'est un cas particulier. À partir d'un cas particulier, on le sait bien par le passé, et souvent dans la société d'aujourd'hui, on fait des généralités, et il y a 1700 malades handicapés en France, exactement, 1700 handicapés en France qui sont à peu près dans le même état, et ben, qui peuvent craindre le même sort, hein, que l'on arrête délibérément son hydratation et sa nutrition, et donc qu'on provoque sa mort. Alors, peut-être pas dans les souffrances atroces, parce qu'on va faire jouer la sédation continue et profonde et continue, mais vous voyez, pour moi, c'est un véritable scandale. Finalement, je dis, de manière un peu exprès, excessif dans le propos, peut-être pour faire électrochoc, que 12 individus de la CEC de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, ont décrété la mort d'une personne handicapée. Vous voyez, c'est la peine de mort, finalement, qui est appliquée par un tribunal.
Autre sujet, Mgr Hayé, le processus de paix au Pays Basque. Le 11 juin, il y avait une conférence humanitaire pour la paix organisée par Bakebidea. L'ensemble des élus du Pays Basque étaient représentés. Est-ce que vous suivez ce processus de paix ?
J'ai suivi, bien entendu. Hein. Pour moi, c'est évident que des chrétiens ne peuvent pas ne pas être préoccupés par la paix, d'une manière générale, et en particulier au Pays Basque, quand on sait effectivement les affrontements, les victimes qui ont été aussi causées par toutes ces difficultés, hein, pendant des années, au Pays Basque, tant du côté français que du côté espagnol. Et c'est évident que les chrétiens doivent être des artisans de paix et tout faire pour que les personnes se rencontrent, puissent se réconcilier. Aujourd'hui, l'Évangile, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent hein. ». Et donc, je crois que c'est très important que les chrétiens jouent un rôle particulier dans cette question, en faisant très attention hein, à ne pas se laisser récupérer par les partis politiques qui peuvent avoir des raisons autre que le processus de paix, particulier au Pays Basque, de s'insérer dans ce dynamisme. Et en étant bien attentif aussi que la réconciliation nécessite aussi des demandes de pardon, nécessite des repentances, nécessite des réparations. Et ça me semble très important qu'on n'oublie pas les très nombreuses victimes et familles des victimes, en particulier du côté espagnol, de l'organisation terroriste ETA. Hein, je pense que ça reste très important. On sait qu'il y a quand même un processus qu'il ne faut pas négliger, qui vient aussi de la décision de l'ETA de ne plus utiliser la violence. Mais bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et je crois qu'il faut que les chrétiens soient à la fois très prudents et très actifs, en effet, pour permettre une véritable paix au Pays Basque.
Il y a eu un appel à Paris, donc, 110 signataires, parmi lesquels des évêques, comme Mgr Rousset, Mgr Kartategui. Vous n'avez pas signé l'appel ?
Non, je n'ai pas voulu signer l'appel. D'abord, peut-être aussi par respect pour les évêques basques, du Pays Basque espagnol, hein, que ce soit Vitoria... Vitoria, Pamplune, Saint-Sébastien et Bilbao, qui restent très prudents sur cette question, justement, comme je vous le disais, pour ne pas risquer d'être récupérés politiquement. C'est vrai que la plupart des signataires sont quand même très identifiés politiquement, et je crois que c'est pas forcément la place de l'évêque. Mais ceci dit, je n'ai pas à juger la décision de mes confrères, qui sont peut-être moins directement engagés dans ce processus.
Dernier sujet d'actualité, les chrétiens d'Orient, donc qu'il ne faut pas oublier. Vous avez tweeté d'ailleurs récemment, il y a un an, Mossoul était prise par l'État islamique. À quand la décision de sauver chrétiens et yazidis de cette catastrophe humanitaire? Donc vous continuez à appeler à ne pas oublier ces chrétiens d'Orient.
Oui, j'aurais pu dire catastrophe humanitaire et spirituelle, parce que c'est aussi le risque que les chrétiens soient complètement éradiqués de cette terre qui est leur terre. Je pense bien qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et qui pensent que ce sont des pays arabes et des pays musulmans, alors que ce sont des pays chrétiens d'abord, hein, que les arabes sont venus après, que les chrétiens sont là depuis le 1er siècle. Les premières communautés chrétiennes sont là en Irak, en Syrie, ce sont ce qu'on appelle les Chaldéens ou les Syriaques catholiques. Oui, je dis aujourd'hui, ça fait un an que Mossoul est tombé, presque un an que la plaine de Ninive a été évacuée de ses occupants chrétiens, qui continuent de vivre dans des conditions atroces, dans des camps de réfugiés à Erbil ou ailleurs, et dont certains obtiennent, pour les plus chanceux d'entre eux et qui restent très minoritaires, des visas pour trouver la paix et la dignité en France, aux États-Unis ou ailleurs, et il semble qu'on est en train de les oublier. Alors je crois qu'il y a le cardinal Barbarin ici en France, dont je salue le dynamisme dans ce domaine, qui va retourner encore fin juin à Erbil, qui essaie d'alerter l'opinion publique, mais on a l'impression vraiment que les choses bougent pas. Le pape en parle beaucoup, je crois, comme l'espèrent aussi les évêques d'Irak en particulier, que le pape ira là-bas, peut-être que lui seul, par un voyage de ce type, peut alerter la communauté internationale, qui, on le voit bien, est très embarrassée pour des raisons qui sont politiques, qui sont économiques, mais qui font passer à la trappe des centaines de milliers d'innocents.
Radio La Pourdi, Ratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour parler de l'encyclique du pape qui est donc sortie le 18 juin, encyclique Laudate Si sur l'écologie. Alors c'est, me semble-t-il, la troisième encyclique du pape. Pourquoi est-ce que celle-ci fait particulièrement parler d'elle?
Alors c'est la deuxième encyclique, parce que là, je pense que vous faites référence à ce grand document qui est La joie de l'évangile, qui est une exhortation apostolique post-synodale. Donc la première encyclique, c'est celle qui avait été écrite à quatre mains, puisque c'est Benoît XVI qui l'avait préparée et le pape François qui l'a signée en arrivant, qui était sur la foi. Hein. Et là, c'est la première grande encyclique, on peut dire, du pape François. Alors c'est très important d'abord parce que c'est la première fois que le magistère suprême de l'Église consacre un document de cette importance et de ce niveau d'autorité à la question écologique. Même si, comme on le voit bien sûr dans l'introduction de cette encyclique, le pape François se réfère à ses prédécesseurs qui avaient déjà abondamment traité de la question écologique, en particulier Jean-Paul II, dans l'encyclique Centesimus Annus, et puis on le trouve aussi en bonne part dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, et puis aussi Benoît XVI qui est beaucoup revenu sur cette question, et en particulier dans son encyclique sociale Caritas in Veritate.
Donc l'Église a quelque chose à dire sur l'écologie, ça fait partie de ses domaines.
Alors c'est très important parce que, comme vous savez, nous sommes en préparation d'une grande conférence de Paris, hein, où la question du climat va être abordée de manière internationale, national à l'initiative de l'ONU, même si c'est présidé par la France. Et en prévision de cette rencontre qui sera certainement importante dans le contexte mondial d'aujourd'hui, le pape a prévu de donner une parole d'autorité à travers cette encyclique, en essayant de médiatiser le plus possible cet événement. Et l'Église a quelque chose à dire. Pourquoi ? Parce que l'écologie, c'est pas seulement la question de l'environnement, c'est la question de notre maison commune, comme dit le Saint-Père dans son encyclique, en disant que c'est le soin que nous devons apporter à notre maison commune. C'est pourquoi d'ailleurs il l'adresse pas seulement aux chrétiens, aux croyants, de manière générale, qui croient en la création, mais il l'adresse à tous les hommes de bonne volonté, parce que nous sommes tous solidaires de cette préservation de la maison commune que nous avons aussi à transmettre aux générations à venir. Mais la parole de l'Église, c'est de resituer la question écologique, c'est-à-dire qui est qui coïncide généralement dans le discours de la société avec la question de l'environnement, hein, de la préservation de l'environnement, a sa véritable place, c'est-à-dire par rapport à une théologie de la création. C'est rappeler que l'homme n'est pas le maître tout-puissant de la terre et de la création, il n'en est que l'intendant. Il est appelé à garder, à protéger cette création dont Dieu seul est le maître. Où il est sans doute le centre de la création, parce qu'il est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, mais en même temps, il n'est pas seul. Les autres créatures infra-humaines, végétales, minérales, vivantes, ne sont pas pour autant à négliger, parce qu'elles font partie de la création et nous sommes liés à l'ensemble de la création. Et par la création, nous sommes liés à Dieu.
Cette lettre encyclique, elle fait près de 200 pages, il y a 246 paragraphes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grands thèmes que le pape aborde, les grands chapitres ?
Alors, je pense qu'il faut regarder rapidement le sommaire qui en dit déjà beaucoup. D'abord, il faut savoir que le titre « Laudato si » est le commencement du Cantique des créatures de saint François d'Assise. Hein, donc c'est important parce que saint François d'Assise qui appelle la terre sa sœur et sa mère, hein, et parce qu'elles ont été créées, elle a été créée par Dieu, et qui est le contexte même dans lequel nous avons été placés. Au début, c'est un jardin. C'est le jardin d'Éden, c'est le paradis terrestre, qui a été détruit dans son harmonie, dans son ordre, et ça c'est très important parce que c'est de là que tout commence, par le péché de l'homme. Hein. Les relations structurelles, originelles de l'homme avec Dieu, avec ses semblables et avec le monde créé, dans lequel on voit dans la Genèse la manière de révéler la création de l'homme, ont été endommagés, ont été abîmés, et abîmés gravement, par le péché de l'homme qui a rompu avec Dieu, et qui a voulu devenir Dieu à la place de Dieu. Voilà. Ça va s'exprimer à travers toute l'histoire, et en particulier à l'heure de la science et de la technique, et des progrès d'aujourd'hui, à travers l'omniprésence, et on pourrait dire l'omnipuissance, de la technologie, comme le dénonce le Saint-Père dans son encyclique, et donc de la technoscience, hein, auxquelles sont asservies maintenant et l'économie et la politique, et donc la vie de l'homme. Et donc la vie de l'homme devient menacée parce que quand l'homme s'arroge ce pouvoir à l'aide de la science et de la technique de faire de la création ce qu'il veut pour son intérêt, c'est évident que ce sera l'intérêt de quelques-uns et que la dignité humaine de beaucoup sera menacée.
Donc les différents chapitres.
Alors ça commence par un constat, hein, le premier chapitre, le constat de la dégradation de notre maison commune précisément, à travers bien un certain nombre de comportements humains, en particulier qui ont une influence sur le climat, puisque la grande question qui sera traitée à Paris, c'est la question du climat, des changements climatiques, du réchauffement climatique. Je ne dis pas que le Saint-Père répond de manière absolue à cette question de la cause humaine du réchauffement climatique, même si on ne peut pas nier que les causes humaines soient pour quelque chose, hein, en particulier la manière d'utiliser l'énergie, hein, les énergies fossiles qui provoquent des dysfonctionnements, comme on le sait, dans l'environnement.
Pourtant, certains catholiques américains réfutent cette idée du réchauffement climatique.
Alors, ça veut dire qu'il y a une controverse, ça veut dire qu'on ne peut pas le définir de manière absolue, même si la majeure partie des climatologues s'appuyant sur des études scientifiques très sérieuses décrète que la manière dont l'homme que l'homme est en bonne partie responsable de cette aggravation de ce réchauffement climatique. On peut dire aussi qu'il y a des cycles, on peut dire aussi qu'il y a d'autres causes plus naturelles qui se conjuguent sans doute, mais ça veut dire qu'il y a quand même une responsabilité humaine. Ensuite, le deuxième chapitre consiste à intituler l'évangile de la création, à dire ce que effectivement la Bible, en particulier la Genèse, mais aussi l'évangile, nous disent de la création. Et puis ce chapitre 3 qui est assez central, où il s'attaque à la racine humaine de la crise écologique, et où il montre finalement, comme je le disais tout à l'heure, que c'est quand l'homme se prétend maître tout-puissant de la création qu'il peut y avoir des dysfonctionnements très graves, avec des répercussions non seulement sur l'environnement, sur l'écosystème, comme on dit, sur la disparition de la biodiversité, qui est si importante aussi à l'équilibre de l'environnement, mais aussi avec des conséquences sociales sur l'aggravation de la pauvreté dans certaines zones de la planète, etc. La racine humaine de la crise écologique, donc c'est cela, hein, c'est quand l'homme s'affranchit de toutes normes qui lui sont imposées par le Créateur et qui sont inscrites dans la nature, hein, et dans les structures de la nature, et où il insiste pour dire que, au fond, la grande cause de la crise écologique, c'est l'anthropocentrisme. Et qui paradoxalement peut conduire à traiter la cause écologique sans traiter sans anthropologie, sans éthique. Et c'est ça qu'il dénonce aussi. Hein. On peut pas, dit-il, il n'y a pas d'écologie sans une saine anthropologie. Et il dit, on ne peut pas défendre l'environnement, qui est quand même aussi au service de l'homme et qui est lié à l'homme, si on ne défend pas la dignité humaine.
C'est ça l'écologie intégrale.
Alors c'est ce qu'on appelle l'écologie humaine, avec Jean-Paul II, Benoît XVI, et que lui, dans le chapitre 4, va appeler une écologie intégrale, hein, en essayant de bien aller jusqu'au bout de la sauvegarde de la création. Et puis ensuite, ce qui est très important et ce qui est un peu nouveau, de manière très incisive, avec un langage qui est accessible à tous, le pape François, dans le cinquième chapitre, donne quelques lignes d'orientation et d'action, non seulement au niveau de la communauté internationale, des décisions qui sont à prendre au plan économique, au plan politique, mais aussi à tout un chacun, dans le renouvellement des modes de vie, dans une vie qui soit davantage commandée par une certaine sobriété, dans notre manière de consommer, hein, qui s'attaque toujours à cette société consumériste qui est dénoncé si souvent par le magistère depuis des décennies. Et enfin, un chapitre très beau pour les chrétiens en particulier, éducation et spiritualité écologique. Hein, et c'est très beau de voir comment, par exemple, au sommet de cette spiritualité écologique, il place l'importance des sacrements, des sacramentaux, qui généralement utilisent d'ailleurs des réalités de la création, mais en particulier l'Eucharistie, le dimanche, le jour du Seigneur, qui est à la fois le jour de la création, le jour de la nouvelle création, qui est le jour de la résurrection, où l'homme se met en retrait de son activité et donc de son activisme, qui est souvent promu par les modèles économiques technoscientifiques d'aujourd'hui, et en contemplant la création, redécouvre le sens et découvre en effet qu'il n'est pas le maître absolu de la création.
Monseigneur Hayé, cette encyclique, elle était attendue par certains, en tout cas depuis pas mal de temps. Est-ce que vous pensez qu'elle aura le même retentissement que, par exemple, celle de Jean 23 à Pacem in Terris?
Alors j'espère, en tout cas elle est tellement attendue et elle est tellement médiatisée que je pense qu'elle va avoir du retentissement. Ce que j'espère aussi, c'est qu'on lira attentivement ce texte. Alors évidemment, il est très long. Hein, on est habitué maintenant, avec le pape François, à avoir des documents extrêmement longs. Mais ceci dit, j'espère hein, que tout le monde le lira avec beaucoup d'attention, qu'on n'y verra pas une espèce d'idéologie écologiste, la défense d'un parti écologique. Évidemment que le Saint-Père prend beaucoup de hauteur.
Le pape François, c'est pas le nouveau José Bové.
Non, certainement pas. C'est pas un activiste. Enfin, c'est pas un homme politique. Hein, c'est pas un militant. Non, il donne de la hauteur en montrant bien où il faut situer l'action écologique. Et je répète, en restituant l'homme hein, et la dignité de la personne humaine au cœur de la création.
L'encyclique, vous allez en parler au diocésain, vous allez peut-être la présenter sous forme de conférence.
Comment on va organiser certainement une présentation comme d'habitude. On en parlera aussi dans notre église, hein, et on aura aussi bien d'autres occasions désormais de la présenter de manière un peu plus complète et précise.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayé. Merci à Violaine Ricourt-Dumas.